RFI. Grand reportage.
En deux mois, le Covid-19 a fait plus de 36 millions de chômeurs aux États-Unis. Le taux de chômage dans la première puissance mondiale pourrait atteindre les 20% du jamais vu depuis la Grande Dépression des années 30. Face à cette dévastation économique, plusieurs États américains ont commencé à assouplir les mesures de confinement destinées à ralentir la pandémie. C'est le cas de l'Oklahoma, petit État rural et conservateur du Midwest dans la Bible Belt, foyer religieux des États-Unis. Ce redémarrage est farouchement défendu par Donald Trump pour enrayer l'envolée du chômage. Mais d'autres craignent que la reprise de l'activité soit trop rapide, alors que les États-Unis pourraient franchir d'ici la fin du mois le cap des 100 000 morts. Déconfinement en Oklahoma, le réveil difficile. C'est un grand reportage d'Éric DeSalve.
Ça, c'est le goût de la liberté. C'est ma première bière entre amis depuis qu'ils nous ont confinés en mars. Première sortie aussi. On sent plutôt pas mal. Hein. Enfin, je sais pas si je vous dirai toujours ça dans deux semaines.
Est-ce que vous avez peur du virus ?
Non, je suis trop bête pour en avoir peur.
Les premières bières en terrasse et les premières blagues de comptoir pour Craig et Clegg après un mois et demi de confinement. Depuis quelques jours, le McNally's, leur pub habituel dans le centre de Tulsa en Oklahoma, a rouvert, mais rien à voir encore avec les soirées du monde d'avant.
En temps normal, ici, vous ne pouvez même pas traverser la rue. Et là, ce soir, c'est vide.
À la table d'à côté, chapeau pointu et cotillon.
We're celebrating Danny's birthday.
Ce soir, Danny fête ses 24 ans avec ses amis qui en oublient les mesures de protection.
We're taking precautions, we have our own masks on. It's not N95, no.
On prend nos précautions, regardez, on a même nos masques. Bon. C'est vrai, c'est pas un N95. Bon, ok, c'est un chapeau pointu pour faire la fête. On se déconfine doucement. J'en reviens pas d'ailleurs. C'est bien réel tout ça. Non, mais ça fait du bien. On a la chance de vivre à Tulsa, dans le Midwest. Ici, on n'a pas de transport public, pas d'immense immeuble. On ne vit pas les uns sur les autres. On est bien espacé. Donc le virus ne nous frappe pas aussi dur que dans les grandes villes comme Chicago, Paris ou New York.
Avec 300 morts du coronavirus pour 4 millions d'habitants, l'Oklahoma, c'est vrai, est beaucoup moins endeuillé que d'autres États américains plus densément peuplés. Cette terre rurale et conservatrice, qui a voté Donald Trump à 65% en 2016, fait donc le pari d'une réouverture rapide de son économie, sans même attendre les critères de la Maison-Blanche, comme la baisse des contaminations pendant au moins 14 jours consécutifs. Son gouverneur républicain a lancé dès le 1er mai la première phase du déconfinement. Coiffeurs, bars, restaurants ont rouvert et les lieux de culte également, y compris certains foyers de contamination. Car ici, la prière est une activité essentielle. Nous sommes dans la Bible Belt, le cœur religieux des États-Unis.
Praise the name of Jesus. Hallelujah, Lord. I pray today, God, for every church that's having services here in Tulsa.
Ce dimanche, Dorothy, chrétienne fervente, se réjouit. C'est la première fois en un mois et demi qu'elle revient s'asseoir sur les bancs de son église évangélique de Tulsa avec ses 5 enfants, en respectant de nouvelles règles sanitaires.
J'attache le masque de mon fils pour le protéger du coronavirus. Si on n'a pas le bon type de masque, le virus peut se faufiler. Je me sens bien, Jésus va me protéger. Rien n'est impossible pour lui. Mon église, c'est ma famille. Elle me manquait. Dieu va nous aider à surmonter tout ça. Il va guérir notre pays et tout va rentrer dans l'ordre.
Guérir une église décimée par le coronavirus. Des dizaines de paroissiens de la Metro Pentecostal Church de Tulsa ont été contaminés. 5 sont même morts, dont l'un de ses pasteurs. Un homme très impliqué dans sa communauté à la simple évocation du nom de révérend Merle Dry, Dorothy ne peut contenir son émotion.
Il a marié ma fille, il a enterré ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Il était très, très important pour notre église. Il va beaucoup nous manquer.
Our hope and trust is in you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
La douleur encore vive. Il faut dire que le décès du révérend remonte à seulement un mois et demi. C'était le tout premier mort du Covid-19 en Oklahoma.
Hallelujah, hallelujah.
Depuis 20 ans, Merle Dry était le bras droit du pasteur Don Martin qui prie aujourd'hui pour sa mémoire et pour la protection de sa paroisse, la tête inclinée, le bras posé sur l'autel. Jusqu'ici en parfaite santé, âgé de 55 ans, le révérend Merle est mort en à peine quelques jours.
Quand il est tombé malade, nous pensions qu'il avait la grippe ou une pneumonie. C'est d'ailleurs ce que les médecins nous ont dit au départ. Ensuite, le samedi, ils ont dit que c'était une double pneumonie. Et puis le lundi, ils lui ont fait passer le test pour ce coronavirus dont on n'avait jamais entendu parler. Le mardi, il était positif et le mercredi, il est mort.
Un mois et demi à peine après ce drame, le pasteur Martin décide de rouvrir son église pentecôtiste.
Écoutez, le maire et le gouverneur ont dit qu'on pouvait rouvrir, alors pourquoi pas? L'église, ce n'est pas juste un passe-temps pour nous, c'est notre vie. Cette église a 98 ans, elle a toujours été forte. Alors pourquoi avoir peur si ce n'est de la peur elle-même? Comme le dit le président, on ne va pas rester enfermé pendant 5 ans, ça ne marcherait pour aucun pays. Quand on a eu la grippe espagnole, il y a eu beaucoup de morts et il a quand même fallu continuer. Dieu a toujours ses raisons.
The truth of the matter is we had Spanish flu, many people died, but you had to keep going. And the way I look at it is God has his way of taking care of things. So, you know.
Magnify you, Savior. Lord, it's good to be in your house. Lord, praise Lord. That's safe. This is the day. This is the day.
Alors ce dimanche, une centaine de fidèles chantent les bras levés dans l'église contaminée. Beaucoup sont des personnes à risque, au-delà des 70 ans. Certains sont même venus en déambulateur ou en fauteuil électrique, comme Lloyd, pasteur retraité. Beaucoup relativisent la menace.
Moi, je n'ai pas eu la grippe depuis 1972.
Est-ce que vous pensez que c'est comme la grippe, ce virus ?
It's a virus. It's different. It is a killer and it does spread rapidly, but the numbers.
C'est un virus tueur qui se propage rapidement, mais les chiffres montrent qu'il y a plus de gens infectés par la grippe que par le Covid. Mais de toute façon, nous devons rouvrir le pays. Si nous restons confinés, ça va tuer l'économie et le remède sera pire que la maladie.
Le remède ne doit pas être pire que la maladie, une citation directement empruntée au président américain. En 2016, plus de 80% des évangéliques blancs ont voté pour Donald Trump. Dans cet État parmi les plus pauvres et les plus républicains des États-Unis, ces appels à la levée rapide du confinement pour sauver l'économie résonnent tout particulièrement. Alors que la première puissance mondiale est passée en quelques semaines du plein emploi au chômage de masse. Pour prendre la mesure de la brutalité de cette crise économique, nous nous rendons dans le nord de l'Oklahoma, à Enid, une ville de 50 000 habitants, en majorité blancs et ouvriers. Ici, avant la crise du coronavirus, 16% de la population vivait déjà en dessous du seuil de pauvreté. Dans un quartier populaire, sur le pas de sa porte, nous rencontrons l'un des visages de la crise. Dolly se dit vidée, très tirée, regard fatigué. Cette mère célibataire regarde ses enfants jouer dans la cour de son immeuble Decati. Ses cernes trahissent son niveau d'anxiété et son manque de sommeil. À 42 ans, Dolly fait partie de ces 36 millions de nouveaux chômeurs américains.
Je fais de l'aide à la personne. Je m'occupais d'une vieille dame, mais elle est partie vivre au Texas avec sa fille. Elle se sentait plus en sécurité chez sa fille. Du coup, j'ai été licenciée.
Dans un pays quasiment dépourvu de protection sociale, Dolly n'a déjà plus de quoi payer son loyer. Chaque matin, avec ses deux filles de 7 et 8 ans, elle se réveille avec la peur de l'expulsion, car la société propriétaire de son appartement vient de lui notifier un avis d'éviction malgré la pandémie.
Ils veulent nous jeter à la rue en plein Covid-19, avec nos enfants. Moi, je n'ai pas de famille ici. Que risque-t-on si nous allons vivre chez des amis et qu'ils ont le virus sans même le savoir? Ma famille sera exposée. Il n'y a aucun soutien ici. Où aller? Qui appeler à l'aide? On me laisse seule avec mes enfants.
En raison de la pandémie, Dolly bénéficie tout de même d'un léger sursis. L'Oklahoma a suspendu les évictions locatives, mais uniquement pendant quelques semaines. Au-delà, les experts craignent un tsunami d'expulsions. D'ailleurs, dans son immeuble, Dolly n'est pas la seule à ne plus pouvoir payer son loyer. Plusieurs de ses voisines, comme Christine, 26 ans, deux enfants au chômage, elle aussi en raison du coronavirus, a également reçu un avis d'éviction.
J'ai clairement peur de perdre mon logement. Je n'ai pas vraiment de solution. Mais c'est toujours comme ça en Oklahoma. On nous a toujours traités comme ça. Toujours essayé de tout nous prendre jusqu'au dernier sou. Regardez notre salaire minimum ici est toujours de 7,50 $ de l'heure.
Est-ce que vous allez voter à la présidentielle en novembre ?
Je n'ai pas vraiment l'intention de voter. Je me reconnais dans aucun des partis. J'ai l'impression que chacun a tout faux. Aucun des deux partis ne prend jamais les bonnes décisions. Et j'ai l'impression que ces dernières années, la situation n'a fait qu'empirer.
En l'absence d'État-providence, dans la Bible Belt américaine, d'autres institutions proposent leur filet de sécurité aux victimes de cette crise économique, comme Dolly et Christine. Ce sont les puissantes églises évangéliques. In Jesus' name, amen and amen. À Tulsa, pendant le confinement, la Victory Church n'a jamais fermé ses portes, ou plutôt celles de son parking. Cette méga-church, comme les appellent les Américains, revendique jusqu'à 15 000 fidèles. Le bâtiment est immense, de la taille d'un centre commercial, surplombé d'une immense croix. Sur son toit, à travers des enceintes géantes, le pasteur Paul Doherty s'adresse à ses fidèles qui lui répondent en klaxonnant depuis leur voiture garée par centaines sur le parking. Un pasteur très éloigné de l'austérité, calviniste, trentenaire énergique, pasteur Paul affiche plutôt des airs de Justin Bieber, blouson, t-shirt, pantalon slim. Une main sur le micro, l'autre sur Instagram. Pasteur Paul a été l'un des premiers aux États-Unis à proposer ses messes en drive-in pendant le confinement. Et à chaque fois, sa méga church offre une aide matérielle aux nouveaux chômeurs dans le besoin.
Pour chaque service, nous avons donné des sacs de courses à quelqu'un qui avait besoin d'aide.
À chaque messe, nous donnons des sacs de courses à tous ceux qui ont besoin d'aide. Dès le premier soir, j'ai dit « Hey, on n'est pas seulement là pour faire une messe, on est là pour être l'église et donner à manger à chacun d'entre vous s'il a faim. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, prenez un sac de courses pour lui. » Le premier soir, nous avons donné 800 sacs de courses. Nous avons ensuite continué de nourrir les familles et au final, nous en sommes aujourd'hui à 212 000 repas distribués. Nous avons redonné espoir aux gens désespérés après la perte de leur emploi. Certains se sont arrêtés sur notre parking et nous disaient qu'ils étaient au bord du suicide. Plus d'espoir, envie de jeter l'éponge, d'en finir avec la vie. Finalement, ils se sont arrêtés ici. Ils ont prié et ils ont repris leurs esprits et ont finalement décidé de ne pas en finir.
Est-ce que vous voyez cette pandémie comme une opportunité pour les évangéliques ?
Absolument. Je crois que Dieu utilise cette pandémie pour la foi. Dieu n'a pas créé la pandémie, mais il utilise cette crise dans le monde pour tester notre foi, pour réveiller les gens et les rediriger vers lui. Il utilise les églises comme la nôtre pour aider les gens. Depuis le début de l'épidémie, beaucoup de gens qui n'allaient pas à l'église nous ont rejoints. Ça, c'est l'œuvre de Dieu.
A lot of people who've never heard of our church that started coming is God.
Avec sa branche humanitaire, le Tulsa Dream Center, l'église distribue chaque semaine des milliers de repas et les besoins sont immenses.
It's Tulsa Dream Center.
Ce matin-là, Elandra et Matt, jeunes volontaires de l'église, distribuent des paniers de nourriture directement à la porte des foyers les plus isolés. Ces repas sont destinés à des enfants, car depuis le début de la pandémie, un enfant sur cinq manque de nourriture. Aux États-Unis, à Tulsa, c'est encore pire. C'est un enfant sur trois qui ne mange pas à sa faim.
Dans les paniers repas, il y a un déjeuner et un petit déjeuner. Les lundis et mercredis, on a essayé de leur donner le dîner aussi. Donc c'est les trois repas. Aujourd'hui, on a un sandwich à la dinde, du jus d'orange, compote, yaourt, lait et un gâteau. Les enfants aiment beaucoup et ils nous attendent.
Dans leur camionnette, les volontaires sillonnent les quartiers les plus pauvres de Tulsa. Malgré le confinement, certains enfants errent dans la rue et Landra leur propose immédiatement un repas.
Hey, do you want a meal? Do you want a meal? A lunch meal?
Okay. Tous les enfants croisés ici sont noirs.
Here you go, have a good one. You're welcome, stay safe.
Tulsa est une ville de fête ségrégée avec une ligne de démarcation ethnique au-delà de la route 244, c'est North Tulsa, une zone habitée à plus de 80% par des Afro-Américains. Cette démographie est l'héritage du massacre racial le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. C'était il y a 100 ans.
En 1921,
il y a eu un massacre dans le centre de Tulsa. Après ce massacre, beaucoup de gens ont fui vers le nord de la ville. Et beaucoup y sont restés jusqu'à aujourd'hui. On trouve des familles qui ont probablement eu certains de leurs membres dans ce massacre. Tulsa commence à peine à ouvrir les yeux là-dessus. Longtemps, c'est resté caché. Moi-même, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était à l'université. En tout cas, beaucoup de familles viennent de là. C'est ce massacre qui les a amenés ici en 1921.
Depuis 100 ans, deux Tulsa, deux réalités économiques coexistent. Au nord, 34% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Au sud, 17%. À North Tulsa, aucun commerce essentiel, presque aucun supermarché, tous sont situés dans la partie blanche de la ville. Avec le confinement, l'accès à la nourriture est d'autant plus difficile, même pour les familles qui travaillent encore, comme Doran et ses quatre enfants, soulagés de recevoir une aide alimentaire.
C'est génial, ça nous aide beaucoup. Ça assure le repas pour les enfants, c'est une bénédiction. Parce qu'il n'y a rien de ce côté-là de la ville. Comme dit ma fille, on manque de viande. C'est de viande dont on manque le plus.
Meat, that's what you miss the most. She's saying meat.
Plus exposés aux conséquences économiques du confinement, les Afro-Américains sont également surreprésentés parmi les victimes du coronavirus. Aux États-Unis, les Noirs représentent 13% de la population, mais 27% des décès. Des chiffres encore provisoires, mais qui montrent déjà que tous ne sont pas égaux face au Covid-19.
Déconfinement en Oklahoma, le réveil difficile. Un grand reportage d'Éric De Salve. Réalisation Pierre Chaffange. Have you heard the news that's gone round you? The man in charge has got to go. Cause he dances round the problem.
L'Europe.